maître spirituel aujourd'hui, il sera question, à l'occasion du 15e anniversaire de son décès, il sera question d'Annette Desautels, qui est décédée le 28 juillet 1982. C'était son anniversaire, évidemment, l'été dernier, durant les vacances, et j'en profite aujourd'hui pour parler d'elle, car Annette Desautels, une Montréalaise paralysée pendant 30 ans, nous a laissé des écrits. Des écrits qu'elle a dictés, évidemment, puisqu'elle était paralysée, elle ne pouvait pas les écrire. Et ce sont des ouvrages, à mon avis, exceptionnels, admirablement bien faits, profonds. « Je ne me tairai pas »,« Pincé de sel », etc. C'était publié aux éditions Pauline, mais malheureusement, c'est épuisé. Quand elle est décédée, on a vu dans les journaux, et durant plusieurs années d'ailleurs, à l'occasion de l'anniversaire, sa photo, ce sourire extraordinaire qu'elle avait. Être paralysé et avoir un tel sourire, c'est signe qu'il y a quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre qui l'habite. Et d'ailleurs, on a publié dans le journal des réflexions tirées des textes d'Annette Desautels. Je crois que la souffrance, la maladie, l'infirmité et l'épreuve sont sous toutes ces formes, ne sont pas un obstacle au bonheur quand on sait les accueillir, comme l'expression du plan de Dieu. Plan bien mystérieux, mais toujours plein d'amour. Puissais-je trouver dans mon état l'occasion de rencontre et d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, au moyen d'approche et de communion à mes frères humains qui attendent mon amitié, ma prière et ma joie. Je crois que dans le Christ, notre vie d'épreuve, car je ne suis pas seul à souffrir, prend un sens, une portée d'éternité, et qu'elle nous conduit à la résurrection de gloire. Dans la sérénité d'un enfant de Dieu, je rends grâce pour ma foi et je chante Magnificat. Et ça, c'est extrait justement des Pincées de sel, petit livre, couverture rouge, sans grande prétention, qui était paru, si je me souviens bien, en 1977. Il y a donc 20 ans. On peut trouver ça dans des bazars aujourd'hui. Et durant donc des années, on a publié cette belle photo de Juliette d'Annette Desautels, que je retrouve dans un livre qui appartenait à ma mère, qu'elle a lu jusqu'à sa mort. Il y a son nom au début, elle avait signé son nom. C'est qu'il y a de si belles choses dans ce livre. Je prends un exemple. Dans « Je ne me tairai pas », page 15, je vous lis que quelques lignes. Un chrétien n'est pas un être autonome, indépendant, isolé des autres. Non, le chrétien, c'est un être social, relié, rattaché à l'Église et à tout l'ensemble des rachetés, c'est-à-dire à tout le genre humain. Le chrétien, c'est un apôtre, c'est un témoin, c'est un ferment de vérité dans son milieu. C'est la lumière du monde, le sel de la terre, le levain dans la pâte humaine. Un chrétien, c'est le frère des autres. Et en cela, un engagé à la cause du royaume de Dieu, un missionnaire. Être chrétien et missionnaire, c'est tout un. Avoir l'esprit missionnaire, c'est se renouveler tous les jours dans son effort de dépassement et avoir au cœur une préoccupation constante, le bonheur et le salut des autres. Elle a une façon d'écrire qui est absolument extraordinaire. Elle est morte à 58 ans. Annette Desautels. Elle a souffert de sclérose en plaques. Et on peut dire que son abandon à la divine providence, pour reprendre le titre de l'émission d'il y a deux jours, l'a conduit à l'héroïsme. Oui, à l'héroïsme. Sa vie, toute de foi, d'espérance et d'amour, vécue dans la joie et la souffrance, a été marquée par plus de 30 années passées au lit. Je m'inspire d'un beau texte de Madeleine Provost, une infirmière qui l'a très bien connue, assistée de deux de ses amies, Anna Desautels, Claire et Rita. C'est paru dans la collection des témoins mariales pour notre temps, le tome 2. Il y a des choses magnifiques dans ces petites brochures qui semblent anodines. Annette a été un être de paix et de lumière. Je l'ai vue, je l'ai connue, j'ai tourné un film sur elle. C'était extraordinaire. Elle vivait sur terre comme si elle voyait son Seigneur, son Dieu, c'est l'impression que j'avais. N'importe qui l'a rencontrée. Et moi, c'est l'une des plus grandes rencontres de ma vie. Même si on l'a rencontrée seulement une seule fois. Et n'importe qui l'a rencontrée n'a jamais pu oublier la figure ardente d'Annette des Hôtels, qui rayonnait de la présence divine. Même sans en être consciente, elle communiquait cet amour de Dieu qui l'habitait avec une telle intensité, une telle profondeur. Annette des Hôtels ne vivait vraiment que pour la gloire de Dieu, puis le salut de ses frères, comme elle l'a écrit. Elle était à la fois humaine et surnaturelle, et son apostolat extérieur prenait son élan dans une vie intérieure vraiment exceptionnelle, vraiment rare. Elle a donc quitté ce monde il y a 15 ans, le 28 juillet 1982. Et je suis sûr qu'elle vit maintenant ce à quoi nous aspirons tous, j'espère, le face-à-face avec Dieu. Cette vision bienheureuse qu'elle avait merveilleusement commencée dans la foi, on sentait qu'elle était déjà en présence de Dieu d'une façon extraordinaire. Annette des Hôtels est née à Montréal. Le 10 décembre 1924, il y a 78 ans, aujourd'hui c'est son 78e anniversaire. Elle est née dans la paroisse Sainte-Cécile, où il y a une communauté de Myriam Bethléem qui anime. Communauté pleine de feu. Vous connaissez, j'espère, la communauté de Myriam Bethléem, fondée par une Québécoise à Baie-Comeau. Et qui s'est répandue à travers le monde. Elle était la fille, Annette des Hôtels, de René des Hôtels et d'Eva Sabourin. Elle est l'aînée de 4 garçons et de 2 filles, Claude, Aline, Gérard, René qui est prêtre, Yolande et André. Et dès le lendemain, elle est baptisée. Toute jeune, elle étudie chez les Sœurs de Sainte-Anne à l'école Saint-Arsène, puis au pensionnat de l'Ange Gardien à Saint-Henri à Montréal. Adolescente, elle se joint aux Enfants de Marie. Elle milite dans la jeunesse étudiante catholique, puis dans la jeunesse indépendante catholique, dans la section malade, car déjà, elle est un peu attaquée par la maladie. C'est une jolie fille brune aux grands yeux noirs, un sourire exceptionnel comme j'en ai à peu près jamais vu. Un sourire de grâce. Elle était toute petite, moi je ne l'ai vue que couchée, alitée, immobile. Elle mesurait à peine 5 pieds. Or, petite comme ça, elle paraît encore plus menue avec son teint pâle. Mais déjà, elle reflète quelque chose d'indicible et de surnaturel, et son sourire s'adresse au cœur. On veut rester indifférent face à ce regard indéfinissable. Comme toute adolescente, Annette des Hôtels a toutes sortes de projets. Elle se décide. Elle entre chez les Visitandines d'Ottawa, dont je vous ai parlé plusieurs fois, les Visitandines. Visitandines d'Ottawa, elle n'y demeure que du 3 juillet au 3 septembre, c'est pas bien long. 1944. Le 10 décembre suivant, elle est admise comme laïque dans le tiers-ordre dominicain. Les dominicains laïcs, si vous voulez, à Notre-Dame-de-Grâce. Et elle se met sous le patronage de Sainte-Catherine de Sienne, dont je vous parlerai bientôt, comme je vous l'ai déjà dit. Mais ses plans sont bientôt contrecarrés par la maladie. Elle comprend les vues de Dieu petit à petit. Et c'est à cette époque qu'elle accepte d'unir dans l'amour ses souffrances à celles du Christ. Pour le salut des prêtres, elle a au cœur le souci du salut des prêtres. Cependant, elle est toujours désireuse de se consacrer totalement à Dieu, alors elle suit une retraite préliminaire en 1946 chez les Petites Sœurs de l'Assomption. Puis elle y devient, chez les Petites Sœurs de l'Assomption, qui sont des sœurs extraordinaires et merveilleuses que j'aime beaucoup, elle y devient aspirante 2 mois plus tard, le 21 novembre. Et là, elle revêt l'habit, puis elle entre au noviciat Puis, durant cette période probatoire, là, elle visite les malades, les pauvres, comme font les sœurs d'Assomption, jusqu'à la fin de décembre 49, donc durant 3 ans. Elle a maintenant 25 ans, mais toujours en raison de sa mauvaise santé. Elle doit quitter définitivement la communauté des petites sœurs d'Assomption en 1951, le 12 octobre, à la veille de ses 23 ans. Oui, c'est ça. Et puis là, ses tentatives infructueuses laissent le cœur d'Annette brisé. Elle souffre alors d'anémie. Et puis, elle profite d'un regain de santé temporaire et elle commence son cours d'infirmière auxiliaire au sanatorium Prévost, que vous connaissez probablement, Montréal. Mais elle abandonne moins d'un an plus tard, puisque les symptômes de son infirmité apparaissent de plus en plus nombreux. Ça s'accentue de jour en jour. Pour elle, descendre la bordure des trottoirs lui est devenue une entreprise extrêmement difficile et dangereuse, mais et avec courage, bien, elle part tous les matins pour le travail parce qu'elle est l'aînée de la famille. Et elle voudrait aider son père à payer les études de ses frères et sœurs. Et très souvent, il lui faut revenir à la maison sans avoir pu se rendre à destination ou avant que la journée de travail ne soit terminée parce qu'elle n'en peut plus. Les médecins lui conseillent l'hospitalisation, mais Annette Deshôtel refuse afin de poursuivre sa tâche. Et à l'été 1952, lors d'une fin de semaine de villégiature, son amie Rita la convainc de consulter un médecin. Et Annette se rend auprès du docteur Roland Dussault de l'Hôtel-Dieu, qui diagnostique la sclérose en plaques, ça y est. Il l'hospitalise durant un mois, mais les traitements s'avèrent absolument inutiles. Puis, à l'automne 52, Annette Deshôtel entre à l'hôpital des convalescents rue Berry. Elle va y demeurer jusqu'en 1955, soit jusqu'à l'âge de 30 ans. Et elle pouvait encore écrire de sa main à son amie Rita, « Laissons toutes deux ensemble, Marie, nous donner à Jésus. » C'est tellement la plus sûre façon de mourir vraiment dans l'amour et pour l'amour, que chaque jour, qu'à chaque heure, qu'en toute occasion, puis il y a 3 points de suspension. Et elle ajoute quand on peut crier « Maman » et qu'on sait, de foi et d'expérience, que Marie ne laisse jamais son enfant seul dans la grande noirceur, qu'elle vient toujours, toujours pour la porter et l'aider. Ah, que nous avons raison de faire comme Jésus! Rester sur le cœur maternel en toute paix, en toute joie et en toute sécurité. Dans la proportion où un enfant est petit, faible, infirme, sa maman s'en occupe, et je pense alors que Marie va bien s'occuper de nous deux. Écoutons maintenant de ce grand compositeur contemporain estonien, d'Estonie, n'est-ce pas, ce petit pays libre, Arvo Pärt. Silwan's Song, c'est en anglais. C'est, en ce titre, c'est « Mon âme gémit après le Seigneur, cherche le Seigneur, quoi. » Et c'est dédié à l'archimandrite Sophonie et à ses frères. C'est interprété par le chœur philharmonique d'Estonie et l'orchestre de chambre de Tallinn. Thank you. L'état d'Annette s'aggrave. Il faut penser à déménager, alors elle ne peut plus réintégrer son logement, mais où aller? Or, Rita et Annette entreprennent une neuvaine de prières ferventes à Marie Immaculée. Du 2 au 11 février, Rita pense soudain au foyer de charité. Vous connaissez le foyer de charité, malheureusement disparu? C'est une œuvre fondée par le cardinal Léger en 1951 à la Pointe-aux-Trembles. Et la demande d'hébergement est donc soumise, puis Annette est acceptée aussitôt. Alors elle s'installe au foyer de charité le 16 février 1955. C'est un grand jour parce que c'est là qu'elle va se sanctifier de façon exceptionnelle. Elle va y demeurer jusqu'à la fin de ses jours, soit jusqu'en 1982, donc près de 30 années. Le foyer de charité, comme j'ai dit, malheureusement fermé il y a à peine quelques années, c'est une tristesse. Et malgré tous les traitements, la sclérose en plaques poursuit ses ravages, de sorte qu'à son arrivée au foyer de charité, Annette doit s'aliter. On l'installe seule dans une petite chambre au premier étage. Mais c'est un inconvénient dans un sens, parce que ça donne sur un bout de corridor si étroit qu'on ne peut pas sortir son lit. Et elle-même ne peut s'asseoir dans un fauteuil roulant. Alors le directeur, premier directeur de la maison, le merveilleux abbé Ovila Bélanger, qui est vraiment le père de cette grande famille, ne supporte pas qu'Annette soit confinée à sa chambre. Alors il réussit à obtenir une civière sur laquelle on dépose Annette des Hôtels tous les matins pour la conduire à la messe et tous les après-midi aussi pour la visite au Saint-Sacrement qui est suivie du chapelet. Mais quel que soit son état, même si elle est fiévreuse et souffrante, car elle a beaucoup souffert, aujourd'hui, évidemment, que on la supprimerait peut-être par compassion, puis on serait excusé, puis on ferait même pas de prison peut-être. Quelle horreur! Non. Heureusement, elle a vécu, elle a illuminé des milliers de gens qui l'ont connue. Même si elle est fiévreuse et souffrante, Annette n'a que très rarement, pour ne pas dire jamais, omis ses visites à la chapelle. Avoir sa ferveur et son recueillement, là, c'était extraordinaire pendant la récitation communautaire du rosaire. On est sûr, tout le monde était sûr qu'elle avait développé une grande intimité avec Jésus et Marie. Elle était phénoménale. Phénoménale. Annette a développé une grande dévotion envers la Sainte Vierge, concrétisée dans une vie mariale vécue en profondeur. Mais elle était particulièrement centrée sur notre Seigneur. Elle aime particulièrement, d'accord, le rosaire, mais d'abord l'Eucharistie. Bien qu'elle ne soit pas capable de tenir un chapelet dans ses mains pour la récitation du chapelet, elle le récitait. Elle aimait beaucoup le Salve Regina et le Magnificat et les hymnes et les motets à la Vierge. Ça nourrissait son âme, ça faisait ses délices. Annette des Hôtels aimait vraiment Marie et, comme elle le disait, par sa dévotion mariale, elle faisait tout par elle. Elle disait franchement, « Je désespérerais de moi si elle n'était pas là, la Vierge, elle. » Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort recommande à l'âme de se jeter en Marie. « Comme une pierre au fond de la mer, à force de me jeter en elle, je finirai peut-être par me perdre de vue, et ne me trouvant plus, je le découvrirai, lui, Jésus. » Tu connais aussi l'action de ma maladie, hein? Les membres deviennent douloureux, difformes. Les sens diminuent peu à peu et les facultés à leur tour sont appelées à décliner progressivement ou brusquement. Mais ne se plaint pas. Hein? Annette des Hôtels est prête à toute éventualité. Mais la divine providence a d'autres projets. Annette des Hôtels garde toute sa lucidité. Et ses facultés intellectuelles. Jusqu'au dernier jour de sa vie, c'est formidable. Et malgré ses limites physiques, tous ses handicaps, elle va pouvoir s'acquitter d'un apostolat dont on ne saura jamais mesurer l'extension. Hein. Annette des Hôtels ajoute dans sa missive une très belle chose. Je vous lis ça. C'est peut-être l'effet direct de la maladie ou quelqu'une de ses complications, mais quand la nuit sera venue, promets-moi que tu recommanderas mes misères à son amoureuse et ineffable bonté, à la Vierge, aux intentions intimes et profondes qui te sont connues, pour les prêtres principalement, tu offriras les humiliations de mon état, unies aux abaissements incessants de Jésus dans l'hostie. quand nous communions, ayons du respect pour l'hostie. Chérissons cette hostie. Communions-nous avec amour. Cela se faisait souffrir, ces abaissements incessants de Jésus dans l'hostie. Elle ajoutait cette phrase extraordinaire, « Puissions-nous laisser Jésus soulager en nous sa soif ardente de notre sainteté et lui donner sans cesse le pur amour. » Les grands mystiques ne parlent pas mieux que ça. Écoutez bien ce que dit cette Montréalaise. « Puissions-nous laisser Jésus soulager en nous sa soif ardente de notre sainteté et lui donner sans cesse le pur amour. » Chère Annette des Hôtels, au foyer de charité à Pointe-aux-Trembles, on ne parle pas de personnel, mais d'une famille. Chacun déploie tous ses efforts pour fournir à Annette des Hôtels les meilleurs soins. La sclérose la réduit de peu à peu à un état de totale dépendance. Mais elle est toujours ouverte à son entourage. Et Annette réunit tous les éléments qui composent ce qu'on appelle le martyr du quotidien. Et elle reste sereine, c'est ça qui est formidable. Mais comme ça doit être dur ce quotidien. Elle semble ne pas souffrir et pourtant, quelles exigences, quel continuel renoncement. Son amour recouvre toutes ses souffrances. En mai 55, le foyer de charité reçoit un cadeau. Une île magnifique, grâce à Mgr Conrad Chaumont, évêque auxiliaire à Montréal. Elle a la chance de s'y rendre. Ça s'appelle l'île Notre-Dame-des-Bois. Et le soir, bien, on porte Annette à l'extérieur, sur son lit. Elle peut ainsi profiter de ce spectacle unique. Ceux qui aiment la nature le savent ce que c'est. Mais elle ne ressent pas. C'est un bonheur sans mélange. Il y a l'humidité qui la rend très souffrante. Et le moindre déplacement lui arrache des gémissements. Au retour, l'infirmière constate une petite escarre de décubitus qui résiste à tous les traitements pendant 7 ans. Parfois, une amélioration de son état se perçoit, mais à la moindre poussée de fièvre, la plaie s'aggrave, puis tout est à recommencer. Et l'infirmière s'attarde une fois auprès de la malade, puis elle lui dit, « Annette, ce n'est pas que c'est long de faire ton pansement, c'est que je ne sais plus... quoi faire? » L'infirmière a reçu d'une amie une bouteille d'eau de Lourdes et l'offre à sa patiente. Et si on mettait un peu d'eau de Lourdes et ça la soulage? Annette des Hôtels connaît le vrai bonheur au foyer de charité. Pendant une neuvaine préparatoire à la fête de l'Assomption, au mois d'août, n'est-ce pas? L'Assomption de Marie au ciel, qui est prêchée par l'abbé Ovila Bélanger, au Cap de la Madeleine, il y a deux jeunes oblats de Marie Immaculée, les pères Dumont et Arsenault, qui ont demandé quelques personnes du foyer de charité pour témoigner, mais Annette, qui accepte, ne peut pas s'y rendre, alors il décide de la filmer. Et plus tard, bien, il présente ça sur grand écran, géant, n'est-ce pas, au-dessus du maître-autel dans la basilique, au Cap de la Madeleine. En d'autres occasions, il y a des gens qui sont allés l'enregistrer comme moi j'ai fait. J'avais fait ça il y a bien longtemps. C'est au tout début de ma petite carrière de réalisateur qui a duré 30 ans. Et je n'oublierai jamais cette émission que j'avais faite, où on lui avait demandé à la fin, d'où vient votre sourire, votre joie. Elle nous avait dit, c'est un secret. Je ne peux pas vous dire ça. On lui avait dit, dites-nous-le, on ne le répétera pas comme on fait souvent à la télévision. Hein. Et elle a souri, elle comprenait bien, puis elle a dit, tout bas, c'est que j'aime tellement le bon Dieu et je suis si sûr qu'il m'aime. C'est à la suite de cette émission que deux spectateurs, et c'est une grâce inattendue, hein, se sont découverts une vocation de dévouement. Ils ont tout quitté pour se consacrer au foyer de charité. Après des années de vie sédentaire, donc Annette des Hôtels accepte, malgré ses souffrances, de seconder l'abbé Bélanger dans son ministère de la parole. Et l'abbé Bélanger prêche des retraites aux religieux et aux religieuses, aux prêtres et dans tous les milieux. Dans les paroisses, les écoles, les prisons, puis Annette accepte avec beaucoup d'amour et de générosité d'aller présenter son témoignage d'une invalide chrétienne malgré toutes ses souffrances. Quelle femme fantastique, hein, c'est un de ses apostolats les plus fructueux. À la prison de Bordeaux, il y a 6 détenus qui se chargent de la monter sur une civière. Ils s'acquittent de cette tâche avec un soin et un respect religieux. Ils doivent sentir qu'ils portent quelqu'un qui imite tellement le Christ qu'elle est comme le Christ. Quant à Annette, elle doit s'abandonner à son Père du ciel et à sa mère Marie qui sont présents dans ses frères infortunés, les prisonniers. Et malgré sa réclusion forcée, Annette des Hôtels est heureuse de se joindre aussi au cercle biblique, à toutes les fêtes récréatives et sociales qui animent la vie du foyer. Et toujours sur sa civière, elle ne craint pas de suivre tout le monde, même au restaurant, au sucre, à la cueillette des fraises. Et on la voit à la chapelle de la Réparation, même à l'oratoire Saint-Joseph, au stade olympique lors de la béatification du frère André, à l'occasion d'un congrès charismatique, n'est-ce pas, vous vous souvenez? Et au printemps 1981, sa secrétaire, Claire, se plaît à la transporter en familiale pour admirer les arbres en fleurs dans le domaine Saint-Sulpice. Ce sont pour elle de grandes faveurs. Écoutons encore un bref passage de cette musique sublime d'Arvo Pärt, ce grand compositeur estonien, interprété par le chœur philharmonique d'Estonie et l'orchestre de chambre de Tallinn. Si on avait demandé à Annette des Hôtels comment décrire tout ce qui se passait en elle, elle aurait cherché simplement à sourire, car elle était une personne d'accueil. C'est ce qui primait chez elle, l'accueil, l'amour. Jamais Annette ne refuse de visiteurs, même quand sa maladie passe par des phases plus aiguës. Hein. Plusieurs se présentent chaque jour au foyer, puis toutes les semaines, 2 ou 3 groupes d'étudiants accompagnés de leur agent pastoral viennent se baigner dans cette espèce d'atmosphère de foi puis de fraternité qui embaume toute la maison, le foyer de charité. Hein. Et Annette des Hôtels me disait à cette époque cette prière magnifique: « Seigneur, fais de moi un crieur d'évangile qui communique aux autres les convictions de sa foi. Un crieur d'évangile qui respire à travers toute paix et optimisme serein. Un crieur d'évangile qui annonce à tous, par sa vie et son témoignage, que tu es là, présent à notre monde et à chacun des hommes. » C'est dans Pincée de sel, à la page 60. À la page 85, on peut lire: « Je rappelle à ton cœur divin ce qu'il y a chez ses frères humains de beauté, de bonté, de grandeur d'âme, d'aspiration et d'espoir, de valeur positive, de vertu et de reflet de toi-même. Sois-en glorifié. » Elle priait comme ça pour tous ces jeunes visiteurs, parce que ces jeunes étudiants parcourent évidemment les différents étages, et puis ils rendent visite aux pensionnaires handicapés. À l'heure du repas, ben, ils aident ceux et celles qui peuvent... Ils sont dans l'incapacité de se nourrir eux-mêmes. Et Annette est une handicapée grave. Elle, son infirmière, lui a suggéré d'ailleurs de garder toujours la même personne pour lui donner à manger. Mais Annette des Hôtels, elle répond qu'elle préfère se laisser aider par ses étudiants parce qu'elle dit « c'est le seul apostolat que je peux faire ». Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, parce que la personne qui vient l'aider profite de l'occasion pour se livrer des confidences, compter ses peines, ses problèmes. Puis Annette des Hôtels écoute. Elle est comme la Sainte Vierge. Elle porte toutes ces choses dans son cœur. De retour dans sa solitude, Annette des Hôtels prie pour toutes ces intentions qu'on lui a recommandées avec tant de confiance. Elle ne manque pas l'occasion d'éclairer, puis de réconforter, puis de relancer sur un autre pas en avant. Ces gens qui, parfois, ont bien des difficultés, en quelque chose certaine, elle fait un ministère de compassion. Elle qui souffre, elle fait un ministère d'écoute. Durant toute sa vie d'alité, elle a toujours fait ça. Ce ministère s'offre à elle comme une véritable mission, qu'elle accepte en dépit des exigences et des fatigues qui limitent ses énergies. Elle me fait beaucoup penser à Marthe Robin, dont je vous ai déjà parlé, je vous ai consacré une émission à Marthe Robin, cette grande sainte du XXe siècle, qui n'a pas mangé, n'a pas dormi et n'a pas bu pendant 50 ans. Entre ses occupations, Annette des Hôtels s'adonne à l'oraison et durant ses insomnies, bien, s'unit à Jésus. Elle médite l'Évangile. Il y a même de très beaux textes superbes d'elle. C'est renéotypé sur des feuilles de différentes couleurs. C'est de toute beauté, c'est d'une richesse. Ça servirait pour faire des homilies magistrales. Elle a perdu l'usage de ses mains depuis longtemps, mais après sa toilette, le jour où on lui installe un magnétophone pour qu'elle dicte ses réflexions, inspirées de l'Évangile, durant les nuits blanches. De là sont nés les trois volumes, Le Pincé de sel, Je ne me tairai pas et Je t'ai fait sentinelle, hein, qui sont épuisés. C'était aux éditions Pauline, mais je vous répète, c'est épuisé. Il n'y en a plus. Trouvez-les dans les bazars. En 1963, Madeleine Lalonde, qui est sténodactylo, mais qui possède un appartement confortable, quitte tout. Elle se convertit, elle aussi, une autre qui vient partager la vie simple et humble des gens du foyer de charité. Elle offre ses services à tous les résidents. Elle offre ses talents aux plus démunis. Annette des Hôtels, qui a 38 ans à ce moment-là, compte parmi les plus grands bénéficiaires de ce secours pour ses livres. Hein, parce que ce qu'Annette a confié au magnétophone, ben Madeleine Lalonde le tape et le met sur papier. Hein. Elle se révèle une fidèle secrétaire qui recueille les méditations d'Annette jusqu'à la fin de l'année 1980, soit pendant 17 ans. Mais Madeleine Lalonde est finalement terrassée par la maladie. Hein. Elle lutte pendant 3 mois, puis elle meurt le 31 mars 1981, pas longtemps avant Annette des Hôtels, qui meurt l'année suivante. Annette l'a réconfortée, imaginée. Elle l'a portée dans ses prières à tous les instants. Quelle femme extraordinaire. Et cette perte, évidemment, c'est un dur coup pour toute la famille du foyer, particulièrement, on le devine, pour Annette des Hôtels. Cependant, comme le dit Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une parole un peu secrète. Hein? Merveille de la providence qui permet la souffrance comme en détournant la tête. Comme si Dieu permet la souffrance et détourne la tête. Il ne guérit pas. Et elle appelle ça une merveille de la providence. Méditez bien ça, c'est pas facile. Une autre bénévole s'était présentée au début de mars 80, c'est Claire, qui avait déjà été bénévole au foyer dans sa jeunesse. Et lors de sa première visite, Claire était arrivée avec un groupe d'adolescentes, des guides, des scouts, si vous voulez, de 15 à 17 ans, qu'elle a présenté à Annette des Hôtels. Et les filles sont étonnées que, malgré sa souffrance et sa dépendance, Annette des Hôtels puisse les écouter et les encourager. Puis aux yeux de ces jeunes, Annette apparaissait comme le témoin vivant du Christ souffrant. Claire elle-même a éprouvé la même impression. Et j'ai pu témoigner exactement de la même chose la fois que je l'ai interviewée. Le soir de ce premier contact, Annette téléphone à Claire. Et de sa voix faible, elle lui demande quand elle recevra de nouveau sa visite. Claire est bouleversée qu'une âme si étroitement unie à Dieu puisse s'intéresser à elle. Et face à cette femme chez qui la grâce est à l'œuvre depuis si longtemps, Claire hésite. Elle connaît sa misère spirituelle. Elle ne peut toutefois s'empêcher d'admirer la grande valeur spirituelle d'Annette des Hôtels, cette recluse à qui viennent se confier tant de religieuses et de prêtres et tant de laïcs. Alors Claire se rend donc au foyer, pardon, 4 ou 5 fois par semaine, et en plus de prendre des notes, bien, elle se charge de la toilette de la malade, la dépose sur sa civière pour la conduire à la chapelle. Elle lui donne à manger, etc. Annette la remercie souvent de lui prêter ses yeux et ses mains. Malgré son corps recroquevillé dans ses draps blancs, elle respire le coup de vivre, de connaître Dieu, son bien-aimé, comme elle l'appelle. Mais durant ces échanges, bien, la secrétaire lit le courrier d'Annette. Elle prend sa dictée pour répondre aux nombreux correspondants, parce qu'elle a des correspondants qui écrivent de partout, le Québec, la France, les États-Unis. Annette Desautels a perdu l'usage de ses doigts, mais le Seigneur l'a dotée d'une mémoire extraordinaire. Le fil de ses pensées semble se dérouler comme ça, tout simplement. Elle livre ses messages d'une façon rapide, précise. Comme quand on lit ses livres, c'est absolument fantastique, je vous assure, c'est sublime. Avant l'arrivée de Claire, elle prépare mentalement le texte de ses lettres, qui sont destinées à 4 ou 5 correspondants, parfois un plus grand nombre même. Et dès que la secrétaire prend la plume, Béonette est prête. Parfois, la secrétaire se présente à la chambre sur la pointe des pieds, juste pour observer puis admirer cette malade, cette sainte qui est recueillie. Annette Desautels a le regard tourné vers le ciel. Et ses yeux brillent. Oui, je l'ai vu, moi. C'était comme ça. Un jour, Claire sent nettement que son amie n'est pas seule et que quelqu'un est mystérieusement présent. Arrive un jour un peintre français qui est en visite au foyer de charité. C'est comme la plupart des visiteurs. Il fait comme les autres, il se lie d'amitié avec Annette Desautels. Il lui offre une magnifique peinture au dos de laquelle il a écrit « Pour Annette et le foyer de charité ». Ce modeste tableau à la gloire de Dieu, 21 mai 1981. Et cet article propose à Annette un pèlerinage à Lourdes, avec une escorte. Il s'engage à assumer tous les frais. Annette fait part de cette proposition à son infirmière. C'est un grand rêve. Elle rêve d'aller à Lourdes, mais sa santé ne le lui permet évidemment pas. Quelques jours avant sa mort, son infirmière remarque un phénomène particulier. Elle est morte au mois de juillet. Les 11, 12 et 13 juillet 1982, donc, Annette semble plongée dans un état apparenté à l'extase, comme si elle jouissait déjà de la vision béatifique. Son regard est lumineux. Et elle continue à parler tout en paraissant ne distinguer personne. Alors, Garde Provost se rappelle alors de ces paroles d'un auteur spirituel. Le Seigneur prend l'âme, et disons-le maintenant, il l'élève complètement de terre, comme les nuées où le soleil attire les vapeurs, ainsi que je l'ai entendu dire. La nuée divine, continue cet auteur, s'élève vers le ciel, emporte l'âme à sa suite et commence à lui découvrir la splendeur du royaume qui lui est préparé. Qui a écrit ça? C'est le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, dont je vous ai parlé le 27 mars 1996. Quand je vous signale ça, c'est que les cassettes sont disponibles auprès de Marc Alexandre à 374-3785. Je ne retire aucun profit de ces cassettes, je tiens à le dire, il y a des gens qui pensent que je fais un commerce de mes émissions. Pas du tout. Le même 13 juillet, Rita, sa grande amie, a la profonde conviction que le Seigneur va venir, et très prochainement, chercher Annette. Les paroles d'Annette au téléphone laissent Rita fortement ébranlée, et elle doit prendre quelques minutes pour surmonter son émotion. Alors, elle demande à Claire de noter les dernières paroles de la malade, et voici les dernières paroles. « Je veux crier au monde que l'Évangile, c'est vrai. Il a daigné se servir du petit instrument que je suis pour apporter un peu de paix. J'ai l'absolue conviction que l'Évangile, c'est vrai. C'est Jésus qui s'en vient. » Et là, elle s'adresse à Claire. « Claire, je le crierai à toute la terre que Jésus... » Et elle ne termine pas sa phrase. Et elle ajoute finalement, « Je suis intérieurement pleine de joie et d'espérance. Jésus s'en vient. Ce que je vis présentement, c'est comme une expérience de ce que sera demain. Ce qui s'en vient. Ce sont ses dernières confidences, le 13 juillet 1982. C'est ainsi qu'Annette des Hôtels est partie rencontrer celui qu'elle aimait tant. Retournons à la musique d'Arvo Pärt, ce grand Estonien, ce grand musicien, dans ce disque dont le sous-titre est « My soul yearns after the Lord » ou « Mon âme languit après le Seigneur ». C'est interprété par le Chœur philharmonique d'Estonie. Le matin du 28 juillet 1982, donc il y a 15 ans, à 9h10, le Seigneur est venu chercher Annette des Hôtels, qui déjà entrevoyait le ciel, mais qui n'a vécu que par son Seigneur, avec son Seigneur, en son Seigneur, en compagnie de Marie. Deux jours plus tard, le 30, le cardinal Léger a tenu à célébrer lui-même la messe des funérailles, assisté d'une quinzaine de concélébrants. Et même si ce jour-là, Montréal est paralysé par une grève des transports publics, la chapelle est comble. Dans son homilie, le cardinal Léger fait une déclaration remarquable. Par une prémonition, lundi dernier, je venais célébrer la messe. Pourquoi au foyer? C'était la dernière fois qu'Annette entrait dans la chapelle. Et avant de quitter le foyer, je suis allé me pencher sur cette figure qui était déjà illuminée par une vision céleste. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait car la voix était éteinte, mais son œil voyait déjà Dieu. Je savais que ma dernière demande serait exaucée. Je lui demandais de prier pour moi et je sais qu'elle l'a fait. Et il ajoute, écoutez bien, je crois que si le foyer n'avait produit que ce fruit d'une vie authentique, il aurait accompli sa mission. C'est dans la mesure où une institution forme à la sainteté qu'elle a sa raison d'être dans l'Église. Annette a conservé une lucidité merveilleuse jusqu'à la fin, je vous l'ai dit tout à l'heure, et voici comme preuve des choses qu'elle a dictées à sa secrétaire. C'est sa dernière lettre. Ça venait d'une inspiration de l'Esprit-Saint, peut-être. Elle adressa à un couple de Lewiston dans le Maine. Elle n'avait jamais rencontré ce couple, mais elle s'est liée d'amitié parce que l'épouse souffre elle-même de sclérose en plaques comme elle, la même maladie. Elle a connu Annette au hasard d'une lecture dans une revue. Ils ne se sont jamais rencontrés. Puis elle lui écrit comme ça, comme si elle la connaissait très bien. Ma
bien chère et douce Valérie, et toi aussi, cher Lucien. On voit la fraternité chrétienne profonde. Quelle chance nous avons eue de nous connaître. Cette chère Madeleine, qui depuis si longtemps écrivait mes lettres, est décédée. Et voici en remplacement ma bonne amie Claire. Elle me permet de venir encore te parler. Aujourd'hui, je veux te dire combien je t'aime, Valérie, qui souffre de sclérose en plaques. J'ai la certitude que c'est aux petits et aux pauvres que Dieu prépare de belles et grandes choses, vie de foi et d'espérance. Ton Dieu t'aime à la folie. Je deviens de moins en moins capable d'écrire, même si Claire est devenue mon intermédiaire. J'ai beaucoup de mal présentement. Je souffre davantage. C'est que Dieu est bon de daigner se servir de moi pour panser les plaies de mes frères et sœurs. Je t'embrasse de tout mon cœur et je t'aime. Ne t'inquiète jamais à propos de moi. Dieu est si bon, si plein d'amour. Il prend soin de moi. Quelle joie ce sera de nous retrouver au ciel avec tous ceux et celles que nous aimons. Dans la mesure du possible, je t'écrirai encore. Si tu ne reçois pas de nouvelles, ne t'inquiète pas. Je suis dans la maison. Ce n'est qu'un au revoir. Je t'embrasse de tout mon cœur. Et elle ajoute en post-scriptum au mari qui s'occupe si ardemment de son épouse Valérie qui souffre de sclérose en plaques, « Mon cher Lucien, merci beaucoup d'avoir été toujours si fidèle, d'avoir donné à Valérie toute ta tendresse et ton aide. » Pas question d'euthanasie, comme vous voyez. C'est pas facile de prendre soin d'une malade. Tu dois de plus en plus te reposer, mais continue à faire que ta petite femme souffre moins. C'est Dieu qui donne la vie et il nous l'enlève pour être avec lui toujours dans son royaume. J'admire vos deux cœurs. Dieu, notre Père, nous réserve de bien grandes joies, et ce, pour toute l'éternité. On sait qu'il vient comme un voleur, on se tient prêt à le rencontrer. Adieu, Annette. » Annette des Hôtels parle à un moment donné de l'Eucharistie dans son beau livre « Je ne me tairai pas. » Et elle écrit à un moment donné « Seigneur, quand j'étais si faible, pardon de m'être détourné de toi, qui étais le seul à pouvoir me sauver. Pardon de ne m'être pas inquiété d'avoir perdu l'appétit. Fais que mon mal ne soit pas incurable. » Ce mal-là, le mal spirituel. J'ai besoin que tu m'apprennes à nouveau à quelle source infaillible me nourrir et me désaltérer. Seigneur, tu me réponds, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Oh, jamais de ma vie ces paroles ne me sont apparues si pleines. Elles contiennent une promesse et des espérances illimitées de vie et de résurrection éternelle qui apportent apaisement à mon besoin d'immortalité. Dire que chaque matin, je puis, si je veux, me nourrir de toi, Christ ressuscité, réduit en l'Eucharistie à l'état d'un Dieu caché sous un petit morceau de pain. Ô Esprit Saint, avive ma foi et ma faim. Au début du livre, elle écrit aussi des choses absolument sublimes, mais sublimes, rares. On voit rarement ça. C'est exceptionnel. Moi, personnellement, j'ai rarement lu des choses aussi belles. De nos jours, on ne se contente plus de se laisser vivre, mais on cherche à découvrir le fond des choses. On se demande même pourquoi on a été jeté dans l'existence, quel est le sens de cette vie que nous avons reçue, d'où venons-nous, où allons-nous ? enfin quel est cet appel au dépassement qui monte parfois des profondeurs de notre être? Serait-ce Dieu? Nous sommes à travers la vie dans la situation d'un aveugle qui cherche à tâtons, et souvent nous ne savons pas voir que le monde où nous évoluons est tout plein des traces de Dieu. Qui est l'auteur des splendeurs du cosmos, des merveilles de la création, des phénomènes et des lois de la nature, de la répartition des temps, des saisons et de l'ordre de l'univers? Tout, absolument tout, est manifestation de la providence de Dieu qui s'exerce à l'intention de l'homme et de la femme. Providence, qui a même fixé la durée de ses jours et les limites de son habitat. Quelle évidence et quel mystère. Dieu, pleinement heureux en lui-même, se plaît à se faire chercher par la plus noble de ses créatures. C'est du Annette Deshôtels, une Montréalaise décédée il y a 15 ans. Une sainte, à mon avis, je n'hésite pas à le dire. Je le dis à titre privé. Mais comme je souhaiterais que le Vatican la béatifie, la canonise, comme je le souhaiterais du fond de mon cœur. L'émission demain sera consacrée aux sectes. Pourquoi tant de sectes? Pourquoi tant de sectes? Quand notre religion est si belle comme vous venez de le voir. Et que d'une femme complètement alitée et impotente, cette religion fait une sainte, pleine d'amour et de tendresse.